La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence pour ce 15e numéro de la mêlée de l'info. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau débat consacré au sujet de l'actualité nationale récente. Voici ceux qui ont accepté de participer à cette émission. Tout d'abord, Annie Thomas, secrétaire générale du site Les Clés du Social, ex-secrétaire national de la CFDT et ex-président de l'UNEDIC. Philippe Faureau, universitaire, historien, docteur en histoire contemporaine. Et Serge Regour, conseiller régional, président de la commission culture et audiovisuelle du Conseil régional d'Occitanie. Bienvenue aussi à tous les trois, merci d'avoir répondu à mon invitation. Je vous propose pour commencer de revenir non pas sur un sujet qui nous est cher, mais à un sujet qui s'impose très régulièrement dans l'actualité, la crise sanitaire et ses conséquences. Cette fois-ci, ce sont les conséquences pour le secteur culturel que nous allons aborder. Comme vous le savez, contrairement à ce qui était espéré, les dernières annonces du gouvernement n'ont pas confirmé la réouverture des musées, des cinémas, des salles de concert et de spectacles à partir du 15 décembre. La prochaine échéance pour en décider est fixée au 7 janvier. Donc, pas de sortie culturelle pendant la période dite des fêtes de fin d'année. Évidemment, cette annonce a suscité désarroi et colère parmi les acteurs culturels. Beaucoup d'artistes, de directeurs de salles sont montés au créneau, ne manquant pas de pointer l'incohérence qu'il y a à laisser les lieux culturels fermés alors que les transports en commun fonctionnent à plein régime, que les lieux de culte reçoivent les fidèles en nombre, et alors qu'aucune étude, à ma connaissance en tout cas, ne semble avoir montré qu'une salle de spectacle soit un cluster potentiel. Que pensez-vous de tout ça, chers invités? Voyez-vous aussi une incohérence à maintenir les lieux culturels fermés? Ou comprenez-vous, au contraire, le choix du gouvernement? Et on commence avec Annie Thomas.
Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Je vais peut-être vous étonner, Eric, mais cette décision ne me fait pas monter aux arbres, je dirais, parce que certes, ces lieux sont fermés, mais ne sont pas les seuls. Les restaurants sont fermés, les cafés sont fermés, les salles de sport, les remontées mécaniques, les discothèques. On ne peut pas nier que ce sont des raisons sanitaires qui ont amené cette décision, parce que le gouvernement veut à tout prix empêcher les personnes de se croiser, d'être ensemble, d'être en groupe, de se contaminer, bien évidemment. Donc, même un enfant de 10 ans comprend aujourd'hui qu'il faut préserver d'abord l'économie et les emplois, parce que sinon l'économie s'écroule et le pays avec. Alors, si je peux comprendre le désarroi, je peux comprendre l'inquiétude, bien évidemment, des professionnels, de certains professionnels, j'avoue que j'ai beaucoup plus de mal avec certaines expressions, en particulier l'expression de Charles Berling qui disait ce gouvernement ou ces personnes qui nous gouvernent haïssent les...
Ont la haine de l'artiste.
Ont la haine de l'artiste. Certains ont pu dire il y a la haine de la culture. Je partage absolument pas ça, parce que, soyons clairs, hein, nos gouvernants et nos élites, en général, ce sont les plus grands consommateurs de culture. Ce sont d'ailleurs les plus grands financeurs de culture. Donc dire cela, pour moi, c'est une accusation absolument ridicule. Voilà, donc je préfère mettre les pieds sur la table, sur la table immédiatement sur cette question-là. Par contre, il y a un autre argument que vous n'avez pas évoqué, et que je souhaite évoquer, c'est que nous sommes entrés en couvre-feu. C'est-à-dire, tout à l'heure, nous devons sortir de ce studio, on est en direct, et à 8 heures, vite, vite, se dépêcher de rentrer chez nous. Comment est-ce que le monde de la culture peut imaginer une reprise de ses activités avec un couvre-feu aussi strict à 8 heures du soir? Nous savons très bien que la majorité des activités culturelles se font le soir, ou en début de soirée, donc ça me semble très difficile, très peu compatible avec cela. Ceci étant, est-ce que ça fait le tour de la question? Non, bien évidemment, ça n'épuise pas le tour de la question pour moi. Il y a toute la question de la création culturelle qu'il faut permettre de s'épanouir, d'exister. Je viens ici dans une radio et je me dis, est-ce que tous les médias qui sont aujourd'hui ouverts, dont les radios, les télévisions, toutes sortes de télévisions, de réseaux, est-ce qu'il y a un effort qui est fait pour faire une offre culturelle un peu plus importante que ce qu'elle est, pour faire en sorte que les artistes soient entendus, écoutés, commentés. L'éducation nationale est ouverte aussi. Les classes sont là, les lycéens sont là. Donc, pourquoi ne pas aussi envisager une collaboration avec l'éducation nationale ? Vous voyez, faire un peu preuve d'innovation. Mais au-delà de ça, et je finirai par ce point, parce que c'est un point qui, évidemment, est un point extrêmement important pour moi, en tant qu'ancienne syndicaliste, c'est qu'il faut tout faire pour garder les emplois et les compétences. C'est ça qui me motiverait davantage si j'étais dans ce secteur. Faire en sorte que les aides arrivent bien aux entreprises, que les artistes puissent avoir eux aussi de quoi vivre. Pour les intermittents, nous savons très bien qu'il a été prolongé d'un an leur droit à indemnisation jusqu'en août 2021, dont les intermittents n'ont aucune crainte. Et ce matin, le gouvernement a rajouté 34 millions aux 5 milliards d'euros qui sont déjà mobilisés pour le secteur. Donc, c'est de ça dont nous devons parler. Comment faire en sorte de préserver les entreprises, les emplois et les compétences?
Alors, les artistes vous répondront que ce qu'ils veulent quand même avant tout, c'est jouer, c'est créer. Philippe Faureau, vous qui êtes universitaire, on parlait d'éducation. Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux questions que j'ai posées et aux arguments qu'a avancé Annie Thomas?
Oui, alors il faut convenir de toute manière que les gouvernements actuellement, et je crois qu'il va falloir sortir de la France aussi, parce que des fois on regarde le nombril et il va falloir regarder ce qui se passe à l'extérieur. Et sont dans des situations extrêmement difficiles. C'est-à-dire qu'ils prennent des décisions qui ne peuvent être qu'impopulaires par définition et qui heurtent des secteurs entiers. Ce peut être des secteurs comme la culture que l'on va évoquer, ce sera le secteur de la restauration, ce sera l'Église qui a porté l'affaire en Conseil d'État à propos justement de des fidèles. On peut accueillir un tiers maintenant des capacités des Églises. Et j'essaye, sans être spécialiste, de m'interroger, mais pourquoi les gouvernements ferment les lieux culturels en particulier? Parce que j'ai refait un petit tour d'Europe. Bon, la France, vous l'avez cité. Je suis allé sur le site du Vatican. Jusqu'au 15 janvier, les musées sont fermés. Or, Dieu sait si c'est une perte de finances pour entretenir même les bâtiments. Fermeture en Allemagne. Fermeture dans une très grande partie de la Belgique. Fermeture en Irlande. Fermeture, sauf exception, en Italie. Fermeture en République tchèque. La Suisse, cela dépend des cantons. Pas plus de 50 personnes dans une salle de théâtre ou de cinéma en Suède. Un quart de la capacité en Pologne, où d'ailleurs la pandémie se développe. Alors, moi, je me suis interrogé, mais où nos gouvernants sont en haine de la culture, ce que je ne crois pas, soit c'est un phénomène plus complexe qu'on veut bien nous le dire, et que pour que tous ces gouvernements, quelle que soit leur couleur politique, en arrivent à quelque chose qui, je crois, est effectivement impopulaire, c'est qu'il y a peut-être une raison. Alors, c'est effectivement pas, je crois, le fait que le théâtre est peut-être un cluster, mais il peut le devenir éventuellement. C'est qu'il faut éviter, me semble-t-il, si on se met quelques instants à la place des gouvernants européens, en l'occurrence, les flux de population. Parce que, effectivement, vous sortez du cinéma, vous allez discuter sur le trottoir, vous n'allez pas forcément respecter...
Il y a des attroupements avant et après un spectacle.
Et je crois, me semble-t-il, que c'est ça qui fait peur au gouvernement. C'est ça qui... Même l'ouverture des musées. Parce que les gardiens de musées ne vont pas systématiquement voir tous les groupes possibles pour...
Faire la police et que les gens s'écartent les uns des autres.
Je pense, mais je n'ai pas la vérité à la matière, je pense que c'est ça qui motive le gouvernement. Et j'ai appris encore en écoutant France Info tout à l'heure que les Hollandais l'ont décidé aujourd'hui. Ouais. Les Hollandais ferment tout pour 5 semaines. Alors je pense qu'il y a des raisons, si vous voulez, plus profondes que la haine de la culture qui me semble être un argument.
Ce qui est certain, c'est que la France n'est pas un cas isolé en Europe.
Et pourquoi le fait-on? C'est là où j'aimerais évidemment que l'on creuse aussi la chose.
Moi, je n'ai pas vu d'études là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Alors je me tourne vers monsieur le président de la commission culture et audiovisuelle de la région Occitanie. Je peux me tromper, mais je pense que vous ne serez peut-être pas tout à fait d'accord avec les deux précédents intervenants.
Alors, vous allez être surpris. D'abord, je dois vous faire un compliment, ce qui n'était pas du tout prévu, parce que lorsque je suis venu, j'étais persuadé qu'il y aurait un consensus en termes de bégaiement de ce qu'on entend sur tous les médias, C'est-à-dire, en fait, la reprise de l'argumentation selon laquelle la culture était injustement punie. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, tout le monde va dire ce qu'on entend sur BFM, sur ITL, et y compris sur France Info. Alors, par rapport à ce qui a été dit, j'ai des points d'accord et des points de désaccord. Donc, je voudrais d'abord dire que il y a une maladresse, je ne dis pas que ça explique tout, mais il y a une maladresse communicationnelle, à mon avis, de grande amplitude, qui peut être un élément, je dis bien un élément, de compréhension au moins partielle de la situation, puisque je connais bien les gens de culture, les artistes, je vis parmi eux, si j'ose dire, et plus que la plupart de nos concitoyens, la question de la sensibilité et des mots sont au cœur même de leur existence. Or, faire le partage entre ce qui serait essentiel et ce qui serait non essentiel, et donc en déduire que la culture serait parmi les activités non essentielles, pour moi est une bourde politique calamiteuse. C'est-à-dire que si on voulait effectivement que les gens de culture
se braquent,
il n'y avait rien d'autre à faire. Parce que moi, je pense que, c'est mon point de vue, je demande à personne de le partager, en tout cas pour ce qui me concerne, la culture est éminemment essentielle. Donc si on voulait effectivement tenir les lieux de culture fermés, il fallait s'y prendre autrement, et des arguments ont été dits ici, qui, à mon avis, sont de bons arguments qui étaient recevables.
Qui portent.
Mais sûrement pas en disant, voilà, on va séparer le bon grain des activités essentielles de livrer des activités non essentielles. Et vous, les gens de culture, vous n'êtes pas essentiels. J'ajoute, en termes de bourde monumentale, que lorsque le président de la République annonce le reconfinement, il n'emploie pas le mot culture, ce qui déjà a mis les gens de culture dans tous leurs états. Lorsque son Premier ministre, quelque temps après, précise les modalités d'un reconfinement partiel, il n'utilise toujours pas le mot de culture, ce qui évidemment aggrave le cas de nos gouvernants. Moi, je n'ai aucune sympathie pour le gouvernement actuel, vous en doutez. Mais je ne fais pas de procès d'intention et je trouve que les propos de Charles Berling sont totalement irrecevables, totalement ridicules, parce que je ne crois pas du tout, évidemment, à une haine quelconque et une volonté quelconque de nuire de la part de ceux qui nous gouvernent. Mais en revanche, et c'est là que je suis en désaccord avec ma voisine, je pense que, malheureusement, les questions de culture ne font pas partie de l'environnement mental immédiat de ceux qui nous gouvernent. Et je ne crois pas, d'ailleurs, il se trouve que je vais publier le 4 février un bouquet sur cette question, dont le titre, pardon de faire ma propre pub, qui s'appelle SOS Culture, parce que je crois, pour avoir travaillé comme universitaire depuis quelque temps sur ces questions, qu'il y a longtemps que les hommes politiques, j'entends les hommes politiques au plus haut niveau de l'État, ont perdu le sens des politiques culturelles. Et que aujourd'hui, il n'y a même plus de référentiel culturel. Et là où les artistes et les créateurs, à mon avis, font fausse route, c'est qu'ils ne voient que l'aspect conjoncturel du problème, c'est-à-dire que conjoncturellement, on veut leur faire mal, on les traite mal, et à mon avis, on ne les traite pas plus mal, mais vous l'avez très bien dit, donc j'ai rien à ajouter, que beaucoup d'autres dont le sort m'importe tout autant, et y compris le fait que, par exemple, aujourd'hui, les plus grandes victimes de la pandémie sont les plus fragiles d'entre nous, les plus pauvres dans les milieux les plus populaires. Et pour moi, ça, c'est la véritable priorité, c'est le véritable scandale qu'il n'y ait pas d'égalité face, effectivement, à la maladie. Donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas jusqu'au boutiste pour les gens de culture. Or, ils ne voient que l'aspect conjoncturel. Et à mon avis, la vraie question, c'est un problème structurel. C'est-à-dire la place aujourd'hui de la culture quelle politique culturelle? Le temps de Malraux et des références à la démocratisation culturelle, c'est fini, plus personne n'en parle. Et d'ailleurs, si entre nous on se disait, mais c'est quoi aujourd'hui le référentiel en matière de politique culturelle? Mes réponses, il y a un moment qu'il n'y en a plus. Jack Lang en avait un autre, qui n'était pas le mien, qui était le tout culturel, considéré que finalement toutes les pratiques spontanées, forme de multiculturalisme qui est à l'opposé de ma propre sensibilité. Je crois qu'il ne faut pas confondre culture esthétique au sens de Bourdieu, culture savante, culture cultivée, c'est ça dont nous parlons, qui n'a rien à voir avec la culture anthropologique. À la limite, dans le Pays basque, porter le béret, ben oui, c'est une tradition culturelle au sens anthropologique. Et donc, je crois que la vraie question dont auraient dû se saisir les gens de culture aujourd'hui, c'était, mais c'est quoi votre politique culturelle qui vous conduit soit à ignorer même les mots de la culture en ne le mentionnant pas dans les discours du président ou du premier ministre, et d'avoir eu cette idée saugrenue de distinguer entre ce qui est essentiel et non essentiel. Donc je pense qu'il y avait matière un vrai sujet qui mérite mieux finalement que leur réaction. Pardonnez-moi, je suis un peu long, mais je vous dis une autre chose. Une erreur cruciale pour moi, c'est en permanence, que j'ai entendu sur toutes les télés ces derniers jours, justifier la place de la culture en disant « mais en fait la culture économiquement, c'est 7 fois le PIB de l'automobile ». Mais si on veut foutre en l'air la culture, c'est exactement ce qu'il ne faut pas dire. Il se trouve que moi, j'ai été expert pendant les négociations de l'exception culturelle, vous le savez bien. Et l'exception culturelle, ça signifie que précisément, la culture est inassimilable à toute autre activité. Or aujourd'hui, la seule manière de défendre la culture, c'est de le faire sur la base d'un critère économique qui est précisément récusé dans le seul référentiel disponible, qui est de sauver les meubles, en quelque sorte, et qui est l'exception culturelle. Donc moi, je me fous éperdument de savoir, c'est brutal ce que je vais dire, si le critère essentiel, c'est l'économie. Parce que moi, toute ma culture, ça a été fait, évidemment, comme tous les universitaires, dans les livres, y compris dans le cinéma, au théâtre, dans les musées, etc. Et j'avais pas de rapport immédiat à l'économie. Lorsque, notamment, on rentre au musée de manière quasi gratuite, on se pose pas la question de l'économie, même si la question économique est réelle. En tout cas, je pense pas que l'argument en défense soit celui-là de dire « Écoutez, considérez-nous parce que nous, on est 7 fois l'automobile ». Je pense qu'ils s'y prennent mal.
Oui, on est passé à l'industrie culturelle, ça voulait rien que le terme des gens disait long, je trouve, à l'époque, on a commencé à l'employer. Annie Thomas, vous vouliez réagir à ce que disait Serge Regourd.
Oui, parce que je partage beaucoup de points qui ont été dits. C'est pour ça, Serge, que par rapport à ce que vous disiez sur où est-ce qu'on en est de la politique culturelle de ce pays, c'est pour ça que j'ai évoqué l'éducation nationale, c'est pour ça que j'ai évoqué les médias. C'est parce que je pense qu'il faut réintroduire de la culture dans ces grands pans de notre société, à l'éducation nationale, c'est-à-dire dans l'éducation tout entière, et dans les médias, parce que, rappelez-vous, il y avait une politique culturelle vis-à-vis de la télé. On rigole maintenant par rapport au théâtre ce soir, tout ce que... Mais c'était une politique culturelle, je m'excuse. Grâce à cela, nous avons tous, quand nous étions enfants, vu les pièces de Molière, vu les pièces de Racine.
Et les Perses.
Et les Perses.
Qui se rappellent
oui,
de ça.
Oui, 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 absolument. Oui, tout à fait. Et pour finir, sur la question de l'économie, vous comprenez bien qu'en tant que président de l'UNEDIC, j'ai eu plusieurs fois affaire avec les intermittents, soyons clairs, hein, et que certains accords qui ont été négociés m'ont valu des jets de tomates et beaucoup d'insultes. Et lorsque je recevais des intermittents, parce qu'il y a aussi des intermittents à la CFDT, mais il y en a aussi ailleurs, peu importe, je les recevais en tant que présidente, je leur disais toujours, mais moi, j'assume en tant que présidente que financer des intermittents, ça coûte cher, et que ça ne rapporte pas, parce que j'estime que nous avons un devoir collectif de financer la culture. Et par ce biais-là, je suis moi d'accord pour que l'UNEDIC finance la culture. Ce n'était pas du tout l'avis du MEDEF, vous vous souvenez très bien. Ce n'était pas l'avis de certaines organisations syndicales, pas la CGT. La CGT était d'accord, mais c'était open house. Donc, en fait, c'était très compliqué parce qu'il faut aussi un petit équilibre. J'ai toujours dit, j'assume, moi, que oui, payer un artiste, c'est important. Ça peut ne rien rapporter, mais c'est très important pour notre société. Et j'assume très bien que l'UNEDIC le fasse. Ça les désorientait, soyons clairs, parce que ce n'était pas toujours un discours qu'on leur portait au niveau institutionnel. Mais je crois qu'il faut le dire. La culture, ça peut rapporter, Eric. L'industrie du disque, ça rapporte beaucoup. L'industrie du concert, ça rapporte beaucoup.
L'industrie du cinéma, et Serge Rogour est bien placé pour
bien
le savoir.
Bien sûr, mais... L'art n'a pas de prix aussi. Il faut dire
ce
ça.
Ce qui a de la valeur n'a pas de prix.
Ce qui a de la valeur n'a pas de prix. Ben oui, et oui. Voilà, il faut le dire. Et parfois, ça peut coûter très cher de faire de la culture, mais ça rapporte beaucoup, pas en termes d'euros, mais en termes d'épanouissement, en termes de, justement de civilisation. Et ça, il faut le dire et le redire. On ne le dit pas assez.
Je crois que votre émission est précieuse parce que moi, je ne suis pas spontanément sur les positions de la CFDT. Mais il se trouve que ce que vient de dire Annie correspond à mes convictions les plus profondes. C'est-à-dire que sur la culture, faire référence d'une part à la question de l'éducation nationale, de l'école, de la nécessité absolue d'introduire les enseignements artistiques et les pratiques artistiques à l'école dès l'école primaire, élémentaire, évidemment au collège, au lycée, c'est une question cruciale. Je me permets... Je vais être un tout petit peu polémique, qu'à une époque, le même ministre, Jack Lang, pour ne pas le nommer, a eu à la fois la culture et l'éducation nationale, et que nous étions nombreux à penser qu'à ce moment-là, il y avait une opportunité formidable, et ça n'a rien donné. Donc ça, c'est essentiel. Idem pour ce qui concerne les grands médias, et donc, du coup, la télévision de service public, parce qu'on ne peut pas imposer, évidemment...
Pourquoi on ne peut pas imposer pardonnez-moi
partie, oui, mais...
Pourquoi on ne peut pas imposer? On a un conseil supérieur de l'audiovisuel.
Oui, je sais bien,
ils
mais le problème, c'est qu'on va toujours vous dire qu'aujourd'hui, dans une Europe qui est un marché unique, vous ne pouvez pas faire peser des contraintes sur les opérateurs privés français par rapport à l'absence relative de contraintes des opérateurs étrangers. Mais en tout cas, on a un moyen, mais je suis d'accord, qu'il faut imposer des règles. Mais évidemment, normalement, le service public est l'outil essentiel. Moi, je fais partie d'une génération qui a plus appris sur l'histoire avec une émission comme La Caméra Explore le Temps que ce que j'ai appris au collège ou au lycée. C'est-à-dire que j'ai des souvenirs très précis. Moi, je suis né dans un village. Il n'y avait rien d'autre que la télé, c'était ça.
Que le médium télévisuel pour avoir accès à l'époque.
Et donc, j'ai découvert des périodes entières de l'histoire, grâce notamment à des émissions comme le Théâtre de la Jeunesse, La Caméra Explore le Temps, etc., etc. Dernière chose que je voudrais dire, et là, ce n'est pas un désaccord, c'est un complément. Quand je parle de politique culturelle, est-il normal, parce qu'il y a des contre-exemples en Europe, et c'est bien de faire aussi des comparaisons, que les centres dramatiques nationaux, pour prendre l'exemple du théâtre, parce qu'on ne peut pas tous les évoquer, et comme personnel, comme emploi permanent, d'une part des administratifs, d'autre part des techniciens, mais aucun emploi artistique. Regardez, le CDN à Toulouse, c'est combien ? Près de 200 personnes, ce sont des techniciens, du personnel administratif, pas un artiste.
Vous savez, Serge, parce que les artistes ont fait aussi le choix de l'intermittence.
Pardon,
ah
non,
Serge.
Ah ben, si,
moi,
écoutez,
je suis pour.
Les privilèges.
Pour les troupes du Sorano,
ben oui,
je suis pour.
La Comédie voilà. Française, oui. Si on dit,
et
on garde
Sorano
la Comédie
aussi.
Française, mais il n'y a plus de troupes. Ça n'a aucun sens. Le oui. Théâtre National de Strasbourg, c'est quoi? C'est sa troupe. Eh bien, normalement, vous allez en Allemagne, vous allez dans la plupart des pays européens, dans les théâtres publics, il y a des troupes permanentes.
Et dans les opéras aussi.
Et bien sûr.
Oui, mais parce que le milieu artistique a fait le choix de l'intermittence.
Non, je pense que ce sont des choix politiques pour proposer aujourd'hui à des intermittents si oui ou non ils voudraient avoir un CDI.
Un lieu fixe.
Un lieu fixe. Bien sûr que oui, aujourd'hui, par exemple, les acteurs, les seuls qui gagnent correctement leur vie, à part les stars évidemment, mais ça ne représente rien du tout, c'est soit les gens qui sont effectivement dans la Comédie Française, de TNS, il y a quelques îlots comme ça, et les autres, c'est quoi? C'est les gens qui sont récurrents dans les séries télé. Mais tous les autres, C'est ça le paradoxe. Le système ne tient debout que grâce au régime des intermittents. C'est-à-dire qu'en réalité, le régime des intermittents, actuellement, malgré tout ce qu'on dit contre, est coproducteur de l'ensemble des spectacles qui sont montés dans les CDN, évidemment, dans les scènes nationales, les scènes conventionnelles, etc.
Alors, on s'est un peu écarté du sujet, mais c'est important, je pense, de parler de tout ça. Philippe Faureau, sur un point quand même qui m'intéresse, le manque de vision culturelle en France de la part de ceux qui nous gouvernent, et c'est pas nouveau, ça, ça date pas de Roselyne Bachelot, il y a longtemps. Dans l'université, je suppose que c'est des questions auxquelles vous réfléchissez, oui, vous qui êtes historien.
Oui, mais on n'est pas, les universitaires ne sont pas forcément plus géniaux que d'autres, d'ailleurs.
Oui, ça n'empêche pas de penser, mais discuter entre soi. Oui, on réfléchit. Soi, oui.
Mais d'ailleurs, oui, encore une fois, d'ailleurs, il faudrait là aussi établir des comparatifs. Est-ce que les politiques culturelles chez nos voisins européens sont si différentes des nôtres? Est-ce qu'il y a... Moi, je travaillant sur l'Italie... Beaucoup de mes amis italiens disent qu'en Italie, il y a grand pays de culture s'il en est, il n'y a plus de politique culturelle, que l'État ne joue pas son rôle, que la télévision italienne est une catastrophe culturelle, etc. etc. Donc en fait, je dirais, quand je me vois, je me plains, quand je me compare, finalement, je me rassure un peu. Mais je voudrais aussi réagir par rapport à pandémie et culture. Je pense qu'il faudrait faire preuve d'imagination. Pourquoi notre France 2, qui est la chaîne, je dirais, bon, ne fait pas une fois par mois, depuis qu'on est bloqué dans nos maisons, une retransmission d'un opéra, en direct. Et je dirais, pourquoi les Français seraient assis dans leur fauteuil et suivraient Così fan tutte, par exemple. Bon.
À une heure pourquoi de grande écoute.
À une heure de grande écoute.
Oui, parce que si c'est à minuit...
Non.
Ça peut exister, mais ça peut exister sur France Télévisions, mais c'est souvent très tard.
Hein. Mais voilà, mais je veux dire, pourquoi clair, ne pas mettre courageusement à 20h45 un grand opéra de Mozart, par exemple. Pourquoi ne pas imaginer, avec les nouvelles technologies, que le cinéma puisse aussi projeter des œuvres. Pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour que les chaînes de télévision fassent quelques rediffusions de grandes pièces de théâtre qui sont passées à la télévision française? Parce qu'effectivement, sans faire, c'était toujours mieux avant. Mais rappelons effectivement que le théâtre ce soir, moi je me souviens que enfant, mes parents aimaient le théâtre ce soir. Je me souviens, adolescent, apostrophe.
Oui.
Apostrophe, absolument.
Alors la grande librairie, mais apostrophe.
Oh non, ça n'a rien à voir.
Capacité,
je ne veux pas être méchant avec François Bunel.
La capacité qu'avait un Bernard Pivot de présenter des livres. Enfin, je pense qu'on peut, prendre aussi dans le passé
des grands concerts.
Les dossiers de l'écran.
Barbara.
Oui. Les dossiers de l'écran, ça manque. En première partie de soirée, vous demandiez aux Français de regarder un film ou un documentaire et des débats. Eh bien, finalement, ça a un peu disparu. Et je crois que la pandémie doit nous obliger, sur le plan culturel, à être imaginatifs. Et moi, je rêve que, effectivement, si la pandémie perdure, et c'est possible, que nous ayons de grandes pièces de théâtre à offrir aux Français qui ne seraient pas, on dit, oh oui, mais ils ne le regarderaient pas. Non, chiche, il faut le faire.
Il est certain que si on ne leur propose pas, ils ne le regarderont pas quand il arrive.
Exactement.
Alors, comme vous parliez de cette pandémie qui va se prolonger ou pas, on sait que le prochain rendez-vous, c'est le 7 janvier, en tout cas, entre autres pour les lieux culturels. Et on se demande si la situation pourrait enfin se débloquer à ce moment-là. Eh bien, je ne voudrais pas jouer les oiseaux de mauvais augure. On peut avoir quelques craintes à cet égard. Je vous propose d'écouter l'épidémiologiste Martin Blachier, qu'on entend beaucoup dans les médias depuis le début de la crise sanitaire. Il était interrogé hier par Apolline de Malherbe dans la matinale de RMC.
Tant qu'il n'y a pas une majorité des gens de plus de 65 ans qui se sont fait vacciner dans ce pays, il n'y a rien qui réouvrira. Il n'y a rien qui rouvrira parce qu'on est déjà sur un plateau et on n'a aucune marge de manœuvre. Donc comment vous voulez réouvrir quand vous n'avez aucune marge de manœuvre? Donc jusqu'à ce qu'il y ait une campagne massive des plus de 65 ans, et si les plus de 65 ans jouent le jeu, on ne réouvrira pas.
Alors attendez, ce que vous dites, c'est que la date du 20 janvier...
C'est impossible.
Impossible.
Impossible. Et tout le monde le sait. Je ne sais même pas pourquoi on continue de faire semblant qu'on pense que le 20 janvier, on va être capable de rouvrir quoi que ce soit alors qu'on est sur un plateau. On ne peut pas se le permettre.
Le 20 janvier, tous ceux qui attendent impatiemment la date du 20 janvier pour la réouverture notamment des bars, des restaurants et maintenant aussi des musées, des cinémas, des théâtres, en fait, vous vous dites, mais c'est une grande hypocrisie. En fait, on sait déjà qu'on rouvrira pas.
Mais tout le monde le sait. Il n'y a pas une personne qui va vous dire qu'on rouvrira en janvier, les yeux dans les yeux, quelque part, que ce soit des restaurants, des musées. C'est pas possible. On est sur un plateau et on veut pas réaugmenter. Donc à partir de ce moment-là, vous n'avez aucune marge de manœuvre. Qu'est-ce qui fait que vous allez réouvrir, que ce soit le 15 décembre ou le 20 janvier ?
Voilà, donc Monsieur Martin Blachier était interrogé par Apolline de Malherbe hier lors de la matinale de RMC, et je précise qu'il ajoutait aussi pendant cette interview que la campagne de vaccination pour les plus de 65 ans ne commencera au mieux qu'en février-mars, et qu'une seconde injection du vaccin devant avoir lieu 3 semaines après la première, il ne fallait donc espérer de réouverture des restaurants, des cafés et des lieux culturels avant fin mars, début avril. Alors quelle est votre réaction après ce que vous venez d'entendre? Parce que, bon, c'était quand même sur la matinale du RMC, c'est pas comme ça, petite radio, et ce monsieur, on le voit un peu partout. Serge Regourd, peut-être, quand vous entendez ça.
Moi, je dois dire que, alors je suis d'une très grande naïveté, mais j'avais imaginé, moi qui ai fait des études de sciences humaines, qui ne sont pas dans les sciences dures, je pensais que les débats, les controverses, etc., concernaient essentiellement ce qu'on appelle les sciences non exactes. Ma grande découverte, c'est de voir que sur des questions essentielles des sciences exactes, les médecins, les meilleurs spécialistes, soutiennent des points de vue diamétralement opposés. Ce qui est quand même paniquant, parce que moi j'ai eu des pathologies lourdes, et j'ai toujours eu une espèce de, encore une fois, de naïveté, je crois qui est partagée par beaucoup de nos concitoyens. Quand on va voir un médecin, on pense qu'il sait, qu'il connaît, qui ne donne pas une opinion hasardeuse qui pourrait être antinomique de l'opinion de tel ou tel de ses confrères. Et là, je suis effectivement dérouté parce qu'on entend tout et son contraire, et parfois avec des formulations tellement péremptoires, telles que celles qu'on vient d'entendre, qu'évidemment on est intimidé, on est tétanisé d'entendre ça, parce que, en tout cas, moi, je n'ai strictement aucune compétence pour savoir si c'est plausible ou si c'est certain. Et en même temps, d'autres médecins nous disent l'inverse. Donc, je crois, là encore, ça pose un problème fondamental en termes de quelle est la place aujourd'hui dans nos sociétés du discours scientifique. Et je crois qu'au terme de la pandémie, le doute, les interrogations, ce qu'on appelle le pessimisme des Français va sortir, je le crains, grandi.
Philippe Faureau.
Oui, il me semble de toute manière qu'il faut être d'une extrême prudence, ce que sont souvent les gouvernements d'ailleurs, parce que c'est une pandémie qui évolue. Le virus, dit-on, peut lui-même effectivement évoluer, donc je présume que effectivement les avis tranchés appellent peut-être un peu de nuance. Bon, nous verrons bien le 20 janvier, mais peut-être qu'effectivement nous allons en prendre pour plusieurs mois. C'est là où je reviens à ce que j'ai essayé de défendre un peu tout à l'heure. Le monde de la culture, du cinéma, du théâtre, de l'opéra, etc., de la littérature, devra être inventif. Parce que la pandémie va peut-être effectivement durer, je n'en sais absolument rien. Mais ce qui explique d'ailleurs que cette évolution explique aussi la prudence de nos gouvernements en Europe.
Oui.
Parce qu'ils ne sont pas péremptoires, les gouvernements. Ils sont d'une extrême prudence.
Oui, alors ce qu'il y a aussi, c'est qu'à travers ce que dit ce monsieur, on a l'impression que, mais moi je sais des choses qui vont se passer comme il vient de les décrire, mais on ne vous les dit pas. En gros, il nous dit qu'on nous ment. C'est ce qu'il est en train de nous dire, hein, clairement.
Enfin, il va même plus loin, pardon.
Oui,
il dit que tout le monde, au
le
sens
sait.
De tous les médecins,
oui,
savent.
Oui, tout le monde le sait. Non,
c'est une grande découverte de cette pandémie, c'est que le langage scientifique, Serge, vous avez raison, et le milieu scientifique est aussi un milieu de polémique. Mais bon, je dirais que c'est normal. Hein, les débuts des vaccins, de l'invention des vaccins, quand Pasteur. On se replonge dans les Pasteur, et tout ce qui a entouré Pasteur, c'est effrayant. Même, enfin, ils se sont disputés à l'Assemblée nationale. Hein. Ils se cassaient presque la gueule à cause du vaccin. Donc, ça, c'est pas étonnant. Mais c'est vrai que il faut apprendre la prudence. Ce monsieur est péremptoire. Vous avez raison, je pense que c'est le bon. Et il a un petit côté complotiste. Parce que c'est à la mode. C'est à la mode. C'est, voilà. Peut-être ça sera ça, peut-être ça sera pas ça. Donc, on ne peut pas à la fois reprocher à nos gouvernements de naviguer en fonction des éléments qu'ils ont. Et ils le disent. Hein, le 7 janvier comme le 20 janvier, ils ont dit, il n'est pas sûr du tout.
Oui, c'est vrai. On fera le point à ce moment-là.
On attend d'avoir 5000 contaminés en France. On est à 13000 aujourd'hui.
Oui,
hein,
oui. Tant qu'on sera au-dessus de
10 000. Tant qu'on sera au-dessus de là, ou qu'on ne sera pas à 5000, nous, on va faire en fonction d'eux. Je crois que c'est honnête de leur part. Et je pense qu'on devrait plutôt créditer les gouvernements de cette honnêteté intellectuelle. Et oui, on est mal à l'aise. Et oui, on ne sait pas tout. Et oui, on ne le saura pas demain. Et oui, mais c'est ça, cette pandémie. Ça nous apprend aussi, quelque part, un peu l'humilité face à ce qui est en train de se passer.
Fin de la discussion concernant ce premier sujet. Rendez-vous en janvier pour connaître la suite du feuilleton. Nous faisons l'habituelle pause d'une vingtaine de secondes et on se retrouve avec mes trois invités pour continuer cette émission. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
L'ouvreuse fait son cinéma sur Radio Présence. Elle vous dit tout ce qu'il faut savoir de l'actualité du 7e art et des séries aussi.
N'oubliez pas l'ouvreuse avec Louis-Marie Solaire et son équipe tous les mercredis à 19h.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Oui, vision, peut-être.
Retour en studio pour la seconde partie de cette mêlée de l'info avec Annie Thomas, Philippe Faureau et Serge Regour, les invités de ce numéro. Autre sujet qui a dominé l'actualité nationale récente et débordé largement du milieu sportif où elle a commencé cette affaire, c'est l'affaire Negru, pour reprendre le mot qu'a utilisé un arbitre roumain lors du match de Ligue des Champions PSG Başakşehir Istanbul, afin de désigner un membre de l'encadrement de l'équipe turque qu'affrontaient les footballeurs parisiens. La personne en question, Pierre-Achille Webo, est d'origine camerounaise et cet arbitre roumain, ignorant manifestement son nom, l'a donc désigné à l'arbitre de terrain par sa couleur de peau, Negru, signifiant noir en langue roumaine, je l'ai appris à cette occasion. Des joueurs ont entendu et compris Negru, ils ont donc relevé une insulte à caractère raciste et ils ont choisi de quitter le terrain, le match étant reporté au lendemain. L'affaire a bien sûr eu des suites et a beaucoup fait gloser, bien au-delà du milieu sportif, comme je l'ai dit il y a quelques instants. À la lumière de ce que l'on sait aujourd'hui de cette affaire, est-ce que vous jugez que cet arbitre a bien eu des propos racistes en désignant un homme dont il ignorait le nom comme le noir pour le différencier des trois blancs parmi lesquels il se trouvait? Et d'autre part, comprenez-vous la décision des joueurs de quitter le terrain et le retentissement qu'a eu ensuite cette histoire dans les médias et chez les élus presque unanimes pour condamner l'arbitre roumain? Serge Regour.
Écoutez, je crois que là encore, on est, me semble-t-il, dans une zone grise. Moi, je trouve salutaire que toutes les manifestations de racisme soient immédiatement dénoncées et sanctionnées. Je crois que dans le contexte actuel, on ne peut plus être dans des demi-mesures. Je le dis d'autant plus aisément que ma sensibilité politique n'est pas du tout du côté de la période coloniale, de tout ce qu'on appelle aujourd'hui le racialisme, etc. C'est pas du tout ma tasse de thé. Et je sais combien certains peuvent utiliser à mauvais escient, si j'ose dire, les questions liées au racisme. Mais il se trouve qu'il y a un contexte. Et le contexte du sport, c'est qu'effectivement, il y a toute une série de précédents où, notamment des supporters, ont eu des comportements directement racistes. Mon collègue connaît l'Italie, il y a eu quelques scandales tout à fait incontestables. Donc, c'est peut-être malencontreux pour l'arbitre roumain qui peut-être, dans ce cas-là, je ne suis pas en état de juger, n'a pas cru tenir des propos racistes, mais je crois qu'il faut être intraitable sur ces questions, parce que sinon, on a effectivement, par une espèce de retournement dialectique, un véritable poison dans la société, qui est de considérer que y a des racistes partout, que la police est unanimement raciste, etc., etc. Donc je crois qu'il faut effectivement n'avoir aucune tolérance. J'ose espérer qu'il y a des instances compétentes dans ce cas particulier pour aller plus profond et de ne pas évidemment sanctionner une faute qui n'aurait pas été commise. Mais dans un premier temps, je trouve la réaction plutôt salutaire. Et je crois que ça joue comme exemple. Vous savez, c'est la logique de la goutte d'eau. C'est-à-dire qu'on accepte, on accepte, on accepte. Et puis, à un moment, il se trouve que les circonstances font que la personne qui a été à l'origine de l'incident a peut-être une sensibilité qui a été plus exacerbée, qu'un mouvement de solidarité s'est déclenché, qu'il y a un effet d'aubaine, évidemment, pour un certain nombre de joueurs de se dédouaner et de montrer qu'ils sont, eux, extrêmement avisés et antiracistes. Je n'ignore pas. À mon avis, c'est jamais tout blanc, tout noir. Mais on ne peut plus avoir la moindre tolérance aujourd'hui dans une société telle qu'elle est en crise. On ne peut pas accepter la moindre tolérance de racisme.
Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est si l'arbitre en question s'était déjà signalé auparavant par des propos de ce genre, parce que moi j'ai peine à croire que quelqu'un qui serait vraiment raciste ne l'aurait pas montré précédemment. Annie Thomas.
Oui, d'abord, je voudrais relever que cette décision des joueurs de quitter ce match de la Champions League est une décision historique. C'est la première fois véritablement
Absolument.
Où ça arrive. Il y a eu des tentatives. Il y a eu parfois un joueur qui a voulu quitter avec ses, parfois en Italie, Milan AC. Il y a eu toute une série d'affaires. Donc, pour moi, franchement, je salue cette initiative et je salue aussi la belle unanimité des politiques qu'il y a eu ensuite pour dire oui, c'est ce qu'il fallait faire. Que ce soit la ministre des Sports en France, en Roumanie, en Turquie, même. Pour une fois, on a quelque chose en commun avec la Turquie, tout va très bien, ça me semble important. Je crois qu'on peut signaler qu'il y a un nouveau climat, y compris à l'UEFA, c'est-à-dire les instances du football, qui ont été pendant très longtemps, n'ont pas entendu les cris de singes, n'ont pas entendu les jets de bananes. Hein.
Ça, ça existe en hein? France, hein. C'est pas seulement en Italie.
Non,
hein,
absolument
on a vu
pas,
ça en France,
mais dans toute l'Europe et en Russie. Je pense que Philippe est mieux placé que moi pour parler de l'Italie, mais la Russie aussi, le championnat, est connu pour être absolument une horreur. Donc, cela n'était pas poursuivi jusqu'à présent. Les matchs n'étaient pas interdits, les stades n'étaient pas interdits. Les joueurs, comme Georges Weah ou Lilian Thuram, qui s'en plaignaient, c'était eux qui étaient en fait pudiques quasiment de porter cette affaire-là. Et je voudrais souligner aussi le côté positif par rapport aux joueurs français. Enfin, les joueurs français parlent. Pendant très longtemps, nous avons eu en face de nous des sportifs américains qui ont été capables de porter ces problèmes de racisme, à la fois entre eux, avec les spectateurs, et parfois avec les autorités, hein, il y a des gestes
là,
qui
c'était
comptent.
C'était encore
hein.
à l'époque de voilà. la ségrégation raciale
oui,
aux États-Unis.
Oui, mais il
n'y
a pas si longtemps. Il y a LeBron James, le basketteur, qui est en train de parler tout ce qu'on veut. Enfin, les joueurs français parlent. C'est-à-dire qu'Kylian Mbappé est parti, et il a dit seul les actes comptent. Il n'y a rien de mieux que les actions pour montrer les affaires. Griezmann, lorsqu'il a appris l'agression contre le producteur de musique noire par les policiers, il a tweeté « J'ai mal à ma France ». Ça, c'est nouveau. Parce que jusqu'à présent, les sportifs français, souvent les footballeurs, n'étaient pas crédités de « Vous avez le droit de parler ». Il y avait ceux qui pensent, qui, eux, ont le droit de parler, et les sportifs, non, eux, ils n'ont pas le droit de parler parce qu'on les prend pour des bébêtes, on les prend pour des demeurés. Regardez comment les guignols de l'info traitent les sportifs.
Hein, comme traitaient, oui.
Traitaient les sportifs. Ils ne sont plus là. Bientôt, on va les regretter, mais je ne les regrette pas.
C'est vrai qu'ils les faisaient souvent
voilà.
passer pour des demeurés.
Oui. Donc, tout ça, me semble-t-il, c'est un petit peu fini. Donc, je crois que, pour finir, dire que... c'est la manière de parler dont il faut regarder un petit peu les affaires. Vous parliez, Eric, de... Je ne suis pas sûr que cet arbitre voulait avoir un mot raciste. Hein.
Non, ce que, non, je, on ce est que pas je disais, sûr. C'est que je ne sais pas si c'était déjà signalé auparavant par des propos de ce genre. Voilà.
Voilà.
J'ai peine à croire que quelqu'un qui est vraiment raciste ne l'a pas montré avant.
Et nous ne savons pas si dans son esprit, c'était une insulte raciste.
Je ne pense pas.
Mais
parce que...
elle a été reçue comme une insulte raciste. C'est ça qui est important, parce que qu'on le veuille ou non, le vocabulaire est racialisé, ça c'est une création de l'histoire. Nous sommes tous avec des modes de pensée, des attributions par rapport aux personnes, par rapport à leur couleur de peau, par rapport à leurs yeux, par rapport à toute une série de leur origine. Donc il faut faire très attention, je crois, sur cette question, se réinterroger collectivement, parce que il a pu faire cette bêtise, d'autres peuvent le faire. Nous-mêmes, autour de cette table, pouvons le faire. Et juste, je finis en disant, essayons d'imaginer dans nos sociétés que nous soyons traités, nous tous là qui sommes autour de la table, de blancs en permanence. Jamais je n'ai été traité de blanche. Jamais.
Alors moi j'ai été traité de blanc quand j'étais à l'armée parce que j'ai fait mon service national à un endroit où il y avait beaucoup de jeunes qui étaient issus de l'immigration africaine. Donc,
eh bien voilà.
Blanc, ça, je précise que ça ne m'a jamais vexé. Et entre eux ils s'appellent les blacks. Donc, vous voyez,
ça vous a jamais versé.
Non.
Mais si c'était tous les jours et que ça revenait de manière...
Oui,
voilà, au niveau de votre travail, au niveau de votre sport, au niveau de votre... Ce serait difficile. Soyons
clairs,
c'est difficile.
Comme c'est difficile d'être appelé le gros ou
absolument.
Voyez,
tout
le
ce qui est discrimination. Tout ce qui est discrimination est blessant. Ou la nana aussi, hein, on pourrait parler de la nana,
oui, la nana
hein, voilà,
oui, tout à fait.
Évidemment, hein, ou cette pétasse. Vous voyez,
ah,
donc
là, ça, va,
ça
là,
tout
c'est
ça,
vraiment insultant.
C'est discriminant. Donc il faut faire très attention à la manière dont on parle.
Ce que vous voulez dire, c'est que si, par exemple, il avait désigné le blanc parmi quatre hommes, dont les trois sont noirs et un blanc, je veux dire que l'histoire n'est pas la même. J'essaye de, voilà, pour que les gens comprennent bien
ce
que
vous êtes en train de me dire. Il ne l'aurait pas fait, il l'aurait peut-être pas fait.
Peut-être voilà. L'aurait-il fait, mais ouais. C'est pas reçu de la même manière. Absolument. C'est ça que vous vouliez dire, il faut bien que les gens le comprennent. Philippe Faureau, oui. Sur ce fait.
D'abord, il y a une circonstance qu'il faut souligner, c'est que le huis clos a permis sans doute de prendre l'affaire avec l'ampleur que nous avons connue. Avec 50 000 spectateurs, ça serait passé complètement inaperçu.
Je pense que les joueurs n'auraient pas entendu.
Et non, bien entendu.
Ils n'auraient pas entendu.
Ni les journalistes.
C'est anecdotique ce que je dis, mais il est vrai que le huis clos a énormément joué. Parce que nous étions donc au Parc des Princes, donc 50 000 personnes. Mais alors là, ça serait passé totalement.
Oui, bien sûr, ça aurait été complètement écrasé par la bronca.
Et alors je crois, me semble-t-il, mais ça n'engage que moi, selon la formule, que... un prétexte discutable à favoriser une juste cause. Je ne crois pas que ce malheureux arbitre roumain, qui a utilisé un mot roumain, qui veut dire noir, est fondamentalement raciste. D'ailleurs, je me demande comment il est maintenant.
Enfin, bah, il s'est excusé, en disant « bon, si ça a blessé, je suis désolé, voilà. C'était pas moi,
mais
c'était
je crois que c'est... On a fait... porter à ce malheureux le poids du racisme du sport, sur lequel il faut vraiment réfléchir, par contre. Et peut-être que ça a été un peu exagéré. Pour lui, il doit en souffrir énormément. Je ne crois pas qu'il était fondamentalement raciste. Bon. Non, ce qui me choque beaucoup plus, c'est que les incidents, les attitudes de joueurs que nous avons eues il y a quelques jours auraient dû être déjà le cas il y a des années. Parce que, et les dirigeants sont aussi responsables, parce qu'effectivement, Annie évoquait les cris de singe à l'entrée d'un joueur africain en Italie et ailleurs.
Moi,
et
je peux vous dire qu'au début des années 90, j'avais un copain qui était de Saint-Etienne, il me disait que lorsque Marseille venait jouer à Geoffroy Guichard, dès que Boli touchait le ballon, il y avait des crises de singes dans toutes les tribunes. Il me disait ça en rigolant, je précise, ça ne choquait pas.
Oui, j'ai de bananes. Dans le cas, alors, Je n'ai pas de cas en France, mais c'est vrai qu'en Italie, le joueur qui salue le but qu'il vient de marquer en faisant le salut fasciste, est-ce que là, ça ne mérite pas une interruption du match si. Ou quand vous avez des supporters de la Lazio de Rome qui, par 2-3 000, font le salut au Duce après un but. Alors, il me semble, si vous voulez, que ce malheureux arbitre roumain a ouvert un abcès et que peut-être c'était exagéré vis-à-vis de lui, parce que je ne crois
je pense
pas qu'il a voulu.
Un peu bouc émissaire.
Il a été un peu bouc émissaire. Et effectivement, par contre, la cause qui a été, dont se sont emparés les joueurs était juste, et juste. Mais on aurait dû réagir, mais il y a beaucoup plus longtemps. Mais parce que, qu'est-ce que vous voulez, quand vous avez 60 000 supporters dans un stade, arrêter le match à la 30e minute, ça peut provoquer des émotions entre supporters, des bagarres, des polémiques à n'en plus finir. Et les dirigeants, mais finalement, préféraient, y compris à un très haut niveau du football. Parce que le rugby, par exemple, c'est vrai que...
Je pense qu'à une époque, ça aurait été match perdu pour le PSG. Hein. Vous arrêtez de jouer, vous avez perdu le match. Hein.
Oui. Et donc, je pense, si vous voulez, que ce qui m'étonne, c'est que la réaction n'ait pas eu lieu bien avant. Parce que...
Le contexte était différent.
Là, il n'y avait pas de spectateurs, Philippe.
Et voilà. Et il n'y a pas de spectateurs.
Donc, si tu veux, le côté...
Le contexte de la société n'était pas du tout le même.
Oui, je pense qu'à la société, ensuite, on a évolué.
Oui, il y a eu des évolutions.
La société a évolué.
Ensuite, je pense qu'il faut réfléchir aussi peut-être à la sociabilité du football. Le football, qui est très, très populaire, est un sport qui, quand même, a longtemps généré une violence verbale. Excusez-moi, je vais être un brin vulgaire à votre micro. Mais je me souviens, au stadium, quand le gardien de but dégageait le ballon,
Oui.
Ça faisait sourire, mais en fait, voilà.
Enfin, je vais vous dire maintenant, les joueurs entre eux sur le terrain, et ça n'a pas changé, les insultes homophobes, ça pleut. À chaque match. Voilà. Et là, c'est les noirs comme les blancs. Oui.
Mais peut-être que, pour un bien, pour un mal, cette affaire, même si je crois qu'elle a été exagérée vis-à-vis d'arbitre roumain, a crevé l'abcès et que maintenant, je pense que les dirigeants en particulier en prendront compte.
Je crois que je voudrais ajouter un petit mot parce que j'évoquais tout à l'heure question de zone grise. En même temps, les questions que nous évoquons posent en creux. Alors, comme nous sommes sur un sentier vraiment de crête, c'est très compliqué à
terrain
définir.
Terrain miné.
Nous sommes quand même depuis un certain temps dans une période où la liberté d'expression est de plus en plus remise en cause. Il se trouve que moi, je suis cinéphile, comme vous savez. Je vois beaucoup de chefs-d'œuvre des années 40-50. Et encore hier soir, je regardais un film qui était un vrai mélo. Et je me disais, mais ce film pourrait plus être fait aujourd'hui. Parce que la plupart des expressions, la plupart des locutions utilisées par les uns et par les autres auraient aujourd'hui une connotation qui indisposerait telle ou telle partie des spectateurs de telle ou telle communauté.
Quel était le film en question ? Hein ? Quel était le film en question ?
C'est juste oh non, mais curiosité. Vous savez, moi je suis un fétichiste, donc personne n'a entendu parler de ce film. Ça s'appelle Le bateau à poisson, un film avec Charles Vanel qui date de 45. Non,
mais c'est pour dire voilà, qu'il est très ancien.
Et la question aussi bien, on a évoqué des formes de minorité ou de dissidence, entre guillemets, sexuelle, la question du racisme, etc. Mais dans tous les films de ces années-là, on parle des négros, etc., nègre, etc. Aujourd'hui, je dis, mais plus aucun pas de ces films, en tout cas, aucune de ces locutions, aucun de ces dialogues ne pourrait être maintenu. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a de plus en plus, c'est ça aussi la crise de la société dans laquelle nous vivons, de communautés organisées qui sont très promptes au procès d'intention. Donc je ne remets pas du tout en cause ce que j'ai dit dans un premier temps. Le racisme ne relève pas du domaine de la liberté d'expression. C'est en soi un délit. En revanche, on voit que lorsqu'il y a un doute, et apparemment le doute est partagé parmi nous, on peut se dire, mais quelqu'un peut être sanctionné pour avoir utilisé un mot qui, en réalité, n'était pas une insulte, n'était pas une injure, n'avait pas de caractère raciste. Et du coup, il sera victime, finalement, d'une espèce d'aujourd'hui de normalisation des dialogues. Et là, c'est une question qui est en creux, évidemment, mais qu'on ne peut pas ne pas poser.
Le doute, aujourd'hui, ne bénéficie plus à l'accusé, si je peux dire. C'est-à-dire que l'accusation vaut culpabilité, aujourd'hui. On peut plus se défendre sur certaines questions. Moi, c'est mon sentiment, de plus en plus. Philippe Faureau.
Oui, j'avais été interrogé par l'actualité, il y a quelques semaines, à propos de Agatha Christie, Les 10 petits nègres.
Oui.
On a changé le titre. Ouais. Ça m'avait paru extrêmement ridicule parce qu'on décontextualise totalement l'œuvre, etc. Et d'autre part, hier, pour une soutenance de master, j'ai été amené à relire un peu de Montesquieu. Mais le mot nègre, chez Montesquieu, apparaît. Est-ce qu'il faudrait le corriger par noir ? Alors que Montesquieu est anti-esclavagiste, d'ailleurs.
Oui, mais on va trouver ça dans beaucoup d'œuvres.
C'est sûr. Et quand Serge évoquait le cinéma, dans un film des années 50 avec Gabin, Razzia sur le schnouf, là aussi, Lopette, Lopette de Fifi dans Touche pas au Grisby.
Bah oui,
enfin, et pourtant, ce sont des films qu'on a tellement plaisir à voir quand même encore aujourd'hui.
Bah, je regardais, pour aller dans le sens de ce que disait Serge Regourd, Les Galettes de Pont-Aven, qui sont repassés il y a quelques jours.
Hier.
Et à un moment, avant-hier,
avant-hier,
à un moment, le personnage de Bernard Fresson, il joue un peintre, et il parle d'un autre peintre qui a un nom en consonance russe ou polonaise, et il dit « un youpin qui se prend pour Soutine ». Mais aujourd'hui, Seria ne pourrait plus tourner
bien
son
sûr.
Film, rien que pour... Après, il y a tout le reste, en plus. L'image qui est donnée des femmes...
Mais cet exemple, les films de Joël Seria... qui pour moi, c'est l'auteur de...
Que moi j'adore, mais bon, oui.
Et pour moi, un très grand réalisateur qui est comparable à Bertrand Blier. Aucun de ses films, aujourd'hui,
j'en suis
persuadé, une exception, parce que la plupart des autres films de Joël Seria sont beaucoup plus gaulois, entre guillemets. Il ne peut plus avoir aucune diffusion.
Bien sûr.
C'est impossible.
Et encore, Les Galettes de Pont-Aven passent très rarement. Et là, c'était sur C8.
Mais
c'était pas sur
l'image prochaine. Du juif dans La Grande Illusion.
Oui,
c'est assez intéressant aussi. Alors, est-ce qu'il faut l'interdire à la télévision ?
Ouais. Annie Thomas, rapidement.
Non, justement, je crois qu'il ne faut pas interdire. Non. Je pense qu'il faut apprendre à tous ceux qui regardent, les téléspectateurs, les auditeurs, qu'il faut appréhender une œuvre en fonction de l'époque où elle a été faite. C'est tout. Je crois que c'est ça la vraie question.
Il ne faut pas perdre de vue non plus que ce sont des personnages qui s'expriment. Ce n'est pas forcément l'opinion
d'une
de
part,
celui
d'une
qui
part,
réalise
bien
le
sûr,
film.
D'une part, bien sûr, c'est une œuvre d'imagination.
Un peu de distance.
Mais en même temps, il ne faut pas réécrire 10 petits nègre, je pense qu'on n'aurait pas dû changer le titre. C'est tout. Elle a été écrite à cette époque-là. L'œuvre d'Agatha Christie a aussi beaucoup de relents antisémites, énormément de relents antisémites, si on regarde de près. Mais c'est une œuvre qui a été écrite, parfois avant la guerre, justement, dans une période où on baigne dans tout ça. Il faut chaque fois apprendre à resituer la vision que vous avez de l'œuvre par rapport au moment où elle a été écrite. Ou filmer.
Alors, le temps passe, donc nous allons rester là pour cette affaire. Comme vous le savez, les dernières minutes de la mêlée de l'info sont réservées à vos coups de gueule, à vos colères du moment. Qu'est-ce qui vous a agacé, tapé sur les nerfs ces derniers jours, très rapidement, 40 secondes chacun, dit Thomas.
Oui, bien alors je serai très rapide. Je plutôt alerté, je dirais, par la condition des femmes, parce qu'on a de plus en plus d'enquêtes qui montrent que la crise du Covid, en fait, est en train d'abîmer la situation des femmes, à la fois au travail, dans l'emploi, dans les conditions de travail. Et il y a un risque qui est que le taux d'activité des femmes, qui n'avait cessé de monter en France depuis les 30 Glorieuses, risque de baisser, et donc je dirais que ce serait un recul historique dont on a des moyens, peut-être à travers le plan de relance, faire en sorte que notre ministre de l'économie comprenne que les aides qui sont données aux entreprises, eh bien, alors je vais lire mon petit papier parce que j'ai bien noté, devraient être dans l'EGA conditionnalité. L'EGA pour égalité, conditionnalité, conditionnalité des aides pour arriver à un objectif.
Serge Regourd, à vous votre petit coup de gueule.
Très différent parce que je suis frappé par le caractère très très éphémère et l'obsolescence très rapide des sujets dans l'actualité. Et la dernière fois que j'étais venu à votre micro, moi qui ai eu de très très longs séjours en Arménie, où j'avais délocalisé mes diplômes à Yerevan, la question de l'Arménie reste une blessure formidable pour moi, parce que j'ai une amie qui est actuellement allée faire un reportage au Haut-Karabakh, et la communauté internationale ne fait strictement rien, c'est-à-dire nous ne les aidons pas. On a laissé ce peuple être bombardé.
On les a abandonnés, il faut dire le mot.
Et donc c'est une vraie douleur, c'est un vrai coup de gueule, parce que on n'en parle plus, ça y est, la page est tournée, on les abandonne à leur propre sort, et je trouve ça scandaleux.
Philippe Faureau, 20 secondes.
Oui, un coup de gueule, ce qui est rare de ma part, mais j'ai un ami qui est hospitalisé depuis le 2 novembre pour de gros problèmes neurologiques. Or, la clinique, qui se trouve à 25 minutes de Toulouse, interdit toute visite. Résultat, il est en train de couler tout doucement dans un monde totalement parallèle, et sa femme est désespérée. Il faut que certains de nos médecins fassent preuve d'humanité.
Oui, salutaire coup de gueule. Nous voilà arrivés au terme de ce 15e numéro de la Mêlée de l'Info. Merci beaucoup à vous trois, Annie Thomas, Philippe Faureau et Serge Regourd, d'avoir été les invités de cette émission. Merci aussi à Jonathan Botello qui a réalisé cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable sur le site de Radio Présence. Et merci encore de nous être toujours fidèles. Rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission.